Chapitre 31. Décision. À peine étions-nous dans le jardin depuis 10 minutes que nous fûmes surpris par des clameurs extraordinaires qui venaient de la fenêtre du boudoir, et nous aperçûmes Herr Grosse agitant comme un fou un immense foulard rouge. « Déjeuner ! Déjeuner ! » criait-il de toutes ses forces. « La consultation, il est fini. Allons, commençons, commençons !» Lucille, Nugent et moi, obéissant à cette invitation sans façon, nous rentrâmes dans le boudoir. Nous avions, selon ma prévision, retrouvé Oscar qui errait seul dans le jardin. Il m'avait prié, par un geste, de ne pas trahir sa présence à Lucille et s'était caché dans une des allées latérales. Son agitation était pénible à voir et il n'eût pas été prudent de le laisser approcher de Lucille à un pareil moment. En laissant les deux docteurs dans le boudoir, j'avais envoyé Zilla avec un billet dans lequel je suppliais M. Finch de revenir sur sa décision et de faire au moins acte de présence à une consultation d'une aussi grande importance pour sa fille et pour entendre l'avis des médecins. À notre retour, on me remit au pied de l'escalier une réponse écrite sur le papier dont se servait M. Finch pour écrire ses sermons. M. Finch refusait de sacrifier les principes à une simple question de convenance. Il me rappelait très sérieusement ce qu'il m'avait déjà dit en me priant de ne pas l'oublier. En un mot, que son siège était fait. En rentrant dans la chambre, nous trouvâmes les deux docteurs assis aussi loin que possible l'un de l'autre. M. Sebright lisait et Herr Grosse dévorait la mayonnaise des yeux. J'attirai Lucille à mes côtés et je lui pris la main. Elle était glacée et ma pauvre amie tremblait d'une manière pénible. Quels moments d'anxiété terribles et cruels que ceux où elle attendait le verdict des médecins. Je pressai sa petite main dans la mienne et je lui dis tout bas de prendre courage. Je ne donne guère dans la sentimentalité, mais je sentis mon cœur saigner pour elle. « Eh bien, messieurs, » dit De Gendt, « à quel résultat êtes-vous arrivés? Êtes-vous d'accord sur ce qu'il y a à faire ?»« Pas du tout, » dit M. Sebright en posant son livre sur la table. « Pas du tout, » répondit Herr Grosse en continuant à faire les yeux doux à la mayonnaise. Lucille se tourna vers moi tandis qu'elle rougissait et pâlissait tour à tour et que son sein haletait d'émotion. Je la prie à voix basse de se calmer en lui rappelant qu'un des deux médecins pensait qu'il y avait de l'espoir. Elle me comprit et se calma tout de suite. Nugent continua ses questions. « Sur quel point différez-vous, messieurs? Auriez-vous la bonté de nous donner votre opinion ?» La lutte de politesse pour savoir lequel prendrait le premier la parole recommença d'une manière fatigante. M. Sebright s'inclina devant Herr Grosse en disant « À vous, monsieur. » Herr Grosse rendit le salut en répondant « Jamais, mon sire. » Mon impatience me fait couper court à tout ce cérémonial absurde usité entre gens de la même profession. « Parlez tous les deux, messieurs, si vous voulez, leur dis-je assez brusquement, mais pour l'amour du ciel, dites quelque chose et ne nous tenez pas plus longtemps en suspens. Peut-on, oui ou non, rendre la vue à Lucille ?»« On le peut !» dit Herr Grosse. Lucille se redressa en poussant un cri de joie. « C'est impossible !» dit M. Sebright. Lucille retomba sur sa chaise et, sans dire un mot, se cacha la figure sur mon épaule. « Êtes-vous d'accord sur la cause de la cécité de Mademoiselle Finch ?» demanda Nugent. « La cataracte aidera la cause !» répondit Herr Grosse. « Sur ce point, je suis d'accord, c'est bien la cataracte, » dit M. Sebright. « La cataracte est curable, » poursuivit l'Allemand. « D'accord, » reprit l'Anglais, « elle est curable, quelquefois. »« Celle-ci est curable, » cria Herr Grosse. « Avec tout le respect que je vous dois, » répondit M. Sebright, « je ne puis être de votre avis. La cataracte dont souffre Mademoiselle Finch n'est pas curable. » « Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?» demandai-je à mon tour. « Je me base sur des considérations chirurgicales et il faudrait, pour les comprendre, que vous eussiez étudié la médecine, » répondit M. Sebright. « Je puis vous affirmer, après avoir examiné avec la plus grande minutie et le plus grand soin les yeux de Mlle Finch, qu'elle ne recouvrera jamais la vue et que toute tentative d'opération serait, selon moi, inexcusable. Mademoiselle aurait non seulement à souffrir de cette opération, mais encore, il faudrait qu'elle se résignât à rester enfermée 6 semaines ou 2 mois dans une chambre obscure. Cette claustration forcée aurait pour résultat infaillible de faire concevoir à la malade des espérances qui ne se réaliseraient pas. Ce sacrifice de sa liberté étant donc parfaitement inutile, serait-il sage d'exposer notre malade aux effets d'un désappointement aussi cruel ? Elle est résignée depuis son enfance à son sort. Il est de mon devoir de vous dire la vérité telle qu'elle est et de vous conjurer de vous arrêter à temps et de ne pas troubler cette résignation. Je vous déclare formellement qu'il serait non seulement inutile, mais peut-être dangereux de lui faire subir l'opération. » C'est avec ces paroles, qui certes n'engageaient en rien sa responsabilité, que le médecin anglais nous donna son avis. La main de Lucile pressa la mienne. « Quelle cruauté ! Quelle cruauté ! » murmura-t-elle avec une certaine irritation et comme se parlant à elle-même. Je lui rendis son serment de main pour lui recommander la patience et je mis, comme une guinde, tout mon espoir dans le docteur Grosseux qui se leva lourdement et vint vers Lucile et moi qui étions assises. « Ce pont, Monsieur Seabright, a-t-il fini de parler ? » demanda-t-il. Celui-ci répondit par son salut éternel en signe d'affirmation. « Pont, je puis alors placer mon mot, un petit mot seulement. Avec les meilleurs compliments à Monsieur Seabright, je prétends qu'il a tort de nier ce que j'ai déjà accompli maintes fois de mes propres mains. J'ai obéré déjà bien des malades qui souffraient d'une cataracte semblable à celle dont ouvre Mademoiselle Vinch. Donnez, voyez vous-même. » Il se tourna tout à coup vers Lucile, releva ses manches, mit l'index de chaque main sur son front et lui ouvrit les paupières avec ses 2 gros pouces. « Je vous jure, foi d'oculiste, reprit-il, que mon scalpel fera pénétrer la lumière dans ces yeux-là et que cette adorable jeune fille deviendra plus adorable que jamais. Ma jolie mademoiselle Vinch devra d'abord se border aussi bien que possible. Elle devra ensuite se confier sans grainte à mes mains. Alors, 1, 2, 3, cric-crac, et ma jolie mademoiselle n'est plus aveugle. » Il ouvrit encore une fois les paupières de Lucile, la regarda fixement à travers ses lunettes et lui déposa sur le front le baiser le plus bruyant que j'ai jamais entendu de ma vie. Puis il poussa un éclat de rire à faire crouler les murs et s'en retourna à son poste favori, d'où il se remit à contempler la mayonnaise. « Allons, allons, s'écria-t-il, assez barlé comme ça, et tant mieux, mein Gott, car nous pouvons commencer à manger. » Lucile se leva pour la 2e fois. « Herr Grosseux, s'écria-t-elle, où êtes-vous ? » « Ici, ma chère, répondit le docteur. Elle traversa la pièce pour aller à la table où le brave Allemand entamait déjà son plat favori. « Vous avez dit, docteur, qu'il faudrait vous servir d'un scalpel pour me rendre la vue ?»«
Oui, oui, mais n'ayez pas peur. Ce n'est pas beaucoup douloureux, pas beaucoup douloureux. »
Elle lui frappa un petit coup sur l'épaule. « Eh bien, Herr Grosseux, levez-vous, et si vous avez votre scalpel, opérez-moi tout de suite. Je suis prête. »
Nugent et M. Seabright reculèrent, tout surpris du courage de Lucile. « Quant à moi, je suis on ne peut plus lâche quand il s'agit d'opérations chirurgicales à faire sur moi ou sur autrui. La brusque détermination de Lucile m'effraya tellement que je m'élançai vers elle sans réfléchir et je fus même assez sotte pour pousser un cri. Avant que j'eusse pu l'atteindre, Herr Grosseux s'était déjà levé comme pour obéir à Lucile, mais avec un morceau de poulet sur sa fourchette au lieu de scalpel.
« Charmante bédide folle, dit-il, je ne coupe pas les cataractes. Que cette opération vous suffise pour aujourd'hui. » Et il introduisit, sans plus de préambule, le morceau de poulet dans la bouche de Lucile. « Ah ah ! Mordez le bien maintenant que vous le tenez. C'est bon, hein ? Allons, asseyez-vous donc, à table, à table. »
On ne pouvait vraiment lui résister. Nous fîmes ce qu'il nous demandait. Nous mangions, mais un gros sœur avalait. Il passait de la mayonnaise à la tarte de marmelade pour revenir tour à tour des sandwichs et du blanc manger à son plat favori. Vous êtes libre de ne pas me croire, mais je vous affirme sur l'honneur qu'il buvait en proportion la bière, le vin, l'eau-de-vie. Tout lui était bon, il mélangeait tout. Quant aux plats de dessert, tels que les mendiants, le gingembre, les fruits confits, il les mangeait non pas comme dessert, mais comme assaisonnement avec tous les autres plats. Il approuva fort un ravier d'olive. Il y plongea les deux mains et en remplit les poches de son pantalon. « Comme ça, dit-il, je n'aurai à déranger personne pour me passer le plat. J'aurai à côté de moi toutes les olives dont j'aurai besoin. » Quand il eut mangé et bu à satiété, il roula sa serviette en boule et montra une certaine reconnaissance pour les bienfaits du Créateur. « Que Dieu ait pont d'avoir inventé le poire et le manger !»« Ah » soupira-t-il en pressant avec recueillement ses doigts étendus sur son estomac. « Quelle immense source de jouissance il nous a donné là !» M. Seabright regarda sa montre. Il y a encore quelque chose à discuter au sujet de l'opération. « Dépêchons-nous, dit-il, nous n'avons plus que 5 minutes. Quant à mon opinion, vous la connaissez, je la maintiens. » Herr Grosse aspira une prise. « Ah, moi aussi, je maintiens la mienne, dit-il. » Lucile se tourna vers l'endroit d'où elle avait entendu venir la voix de M. Seabright. « Je vous remercie beaucoup, monsieur, de votre opinion. » lui dit-elle tranquillement mais avec fermeté. « J'ai résolu de subir l'opération. Je ne cours que le risque de rester comme je suis, tandis que, si elle réussit, je renais, pour ainsi dire, à une vie nouvelle. J'aime mieux courir n'importe quel risque que de rester aveugle. » C'est par ces paroles énergiques qu'elle nous annonça la décision qu'elle avait prise et qu'elle nous prépara à l'événement qui devait influencer non seulement son avenir, mais celui de ceux qui l'entouraient, comme on le verra dans la suite. M. Seabright lui répondit, de son ton poli et réservé, « Votre décision ne me surprend pas, mademoiselle. Je la regrette sincèrement, mais elle est très naturelle. » Lucile s'adressa ensuite à Ergos. « Choisissez le jour qu'il vous plaira, docteur, le plus tôt possible, demain si vous voulez. » « Répondez-moi à une petite chose, mademoiselle, » lui dit l'Allemand, avec une gravité que nous ne lui connaissions pas encore. « Êtes-vous bien décidé ?»« Oui, » répondit-elle avec fermeté. « Bon, il y a un temps pour plaisanter et un temps pour être sérieux. Il faut être grave pour le moment. J'ai encore un mot à ajouter avant de partir. » Orné de ses immenses lunettes et avec ses deux gros yeux fixés comme ceux d'un hibou sur la figure de Lucile, lui parlant avec chaleur et avec sa prononciation bizarre, il expliqua à Lucile combien il était nécessaire qu'elle réfléchît sérieusement à l'opération qu'il aurait à faire. Je me sentis soulagé par le ton qu'il prit avec elle. Il lui parlait avec tant d'autorité qu'il fallait bien qu'elle l'écoutât. Il avertit d'abord Lucile que si l'opération venait à échouer, il n'y aurait plus possibilité de recommencer. Le résultat, quel qu'il fût, devait être final. En second lieu, avant de consentir à l'opération, il fallait qu'elle et ses amis souscrivissent à certaines conditions dont l'observation rigoureuse était un élément essentiel de réussite. M. Seabright n'avait pas exagéré quand il avait parlé du temps qu'il faudrait passer après l'opération dans la chambre obscure. Il ne fallait pas que Lucile espérât faire usage de ses yeux avant 6 semaines. Il fallait en outre que, pendant ce temps, elle se maintînt dans un état de santé qui devait aider puissamment à amener une guérison complète. Si l'équilibre moral et physique venait à être détruit, tout le savoir du docteur aurait été déployé en pure perte. Il fallait, dans la monotonie de cette claustration, que rien ne vînt l'agiter ou la passionner tant que le médecin n'aurait pas déclaré qu'elle ne courait plus aucun danger. Herr Grosse devait ses succès à l'observation rigoureuse de toutes les précautions dont il avait reconnu l'importance en voyant combien la santé morale et physique exerçait d'influence sur la guérison de ses malades lorsqu'il s'agissait surtout d'un organe aussi délicat que celui de la vue. Il continua en faisant appel au bon sens de Lucile pour qu'elle admît la nécessité de consulter ses amis et de bien réfléchir avant de prendre une dernière décision. En un mot, toutes les mesures devaient être prises de manière à donner au docteur, pendant au moins 3 mois, un pouvoir absolu sur son genre de vie et sur les changements qu'on voudrait y introduire. Aussitôt qu'elle et sa famille se seraient décidées à souscrire à ces conditions, Lucile n'avait qu'à lui écrire à son hôtel et le lendemain, il serait à Dymchurch. Alors, si la jeune fille se trouvait dans les conditions de santé voulues, il l'opérerait sans plus tarder. Sur ce, Hergrosse, tout essoufflé, poussa un « ha » guttural et caverneux et se releva tout guiré sur ses petites jambes. Au même instant, Zilla frappa à la porte pour dire que la voiture attendait les deux docteurs à la grille du presbytère. M. Seabright se leva, s'imaginant évidemment que son collègue n'avait pas encore achevé tout ce qu'il avait à dire. « Ne vous gênez pas pour moi, lui dit-il, mes affaires m'appellent à Londres et il faut absolument que je prenne le premier train. »« So, et moi aussi j'ai mes affaires à Londres, mais des affaires d'amusement. » M. Seabright fut tout scandalisé de la franchise de cet aveu. « J'aime tant les musiques, continua Hergrosse. Je foudrais arriver à temps pour l'Opéra. Ah, Gott, elles coûtent cher les musiques en Angleterre. Je grimpe au paradis et cependant je paie mes 5 shillings en pon argent. Pour 5 pence, dans mon pays, j'entendrai la même chose, mais mieux exécutée. Des abîmes profonds de mon cœur, continua cet homme singulier. Je vous remercie, Montam, de votre mayonnaise. Quand je reviendrai, faites-moi encore un plat de ce mets admirable, je vous en prie. » Puis, se tournant vers Lucile, il lui posa une dernière fois le pouce sur la paupière. « Ma chère mademoiselle Vinch, n'oubliez pas ce que votre oculiste vous a dit. Je vous rendrai la lumière, mais à ma manière et à l'heure que je fixerai. Ma jolie petite demoiselle sera infiniment plus jolie, j'en réponds, quand elle ouvrira ses beaux yeux. » Sur ce, il saisit la main de Lucile et l'introduisit sentimentalement dans son gilet, sur la région du cœur, en posant son autre main dessus, comme pour lui tenir bien chaud. Dans cette attitude sentimentale, il poussa un énorme soupir, se remit en secouant sa tête crépue, me cligna de l'œil à travers ses lunettes et suivit, en se balançant sur ses petites jambes, M. Seabright, qui était au bas de l'escalier. Qui aurait deviné à le voir que cet homme tenait, pour ainsi dire, la clé qui devait ouvrir à Lucile les portes d'une nouvelle existence.